Eh ben, c'est la guitare d'Alan Collins qu'on reprend cette onde noire.
Un peu surpris, apparemment.
Voilà, donc notre nouveau générique qui est le Freebird de Lynyrd Skynyrd.
Voilà, donc Jacques, tu vas nous emmener dans le Grand Nord, si je ne m'abuse. Enfin, le Grand Nord. Il y a plus au Nord, mais...
Il y a plus au Nord, enfin, pas trop quand même. Donc oui, c'est un roman d'Arnaldur Indridason qui s'appelle La Femme de l'Ombre, qui est paru aussi aux éditions Métayer, qui est traduit par Éric Bourri. Donc ça se passe en Islande. C'est le deuxième tome de ce que l'éditeur a appelé la Trilogie des Ombres. Trilogie entamée en tout début d'année avec un roman qui s'appelait Dans l'Ombre, où on faisait la connaissance des deux nouveaux enquêteurs d'Arnaldur Indridason. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en Islande.
On peut préciser que dans les romans précédents de Arnaldur, on avait le fameux Erlendur Svensson, voilà. Très connu.
Donc là, il a un petit peu, je sais pas s'il a abandonné ou mis de côté pour faire...
Non, c'est nouvelle, voilà. il va bientôt revenir.
Donc ces deux enquêteurs, il y en a un qui s'appelle Thorson. C'est un Canadien, mais un Canadien en fait d'origine islandaise. Donc ses parents avaient émigré au Canada. Et il revient avec l'armée américaine, bien qu'il soit Canadien. Il travaille dans le service de police de l'armée états-unienne. Et il y a un deuxième enquêteur qui s'appelle Florent, qui lui est un flic islandais à l'équivalent de la crime de Reykjavik. Dans le précédent roman, donc, qui s'appelait Dans l'ombre, dont on en avait parlé dans cette émission, il se passait en 1941, au début de l'installation des Américains sur le sol islandais. Dans La Femme de l'ombre, ce roman donc, dont on va parler aujourd'hui, on est en 1943. Donc les deux enquêteurs, entre-temps, ont pas mal bossé ensemble, ils ont appris à se connaître, sont même devenus amis. Au début du roman, on trouve un cadavre qui va être rejeté par la mer, un homme qui va être agressé plutôt violemment à la sortie d'une boîte, à militaires en quelque sorte.
C'est rare que tu sois agressé très gentiment. Hein,
sauvagement, disons, voilà. Et il va y avoir aussi une jeune femme, en fait deux jeunes femmes. La première, elle va disparaître alors qu'elle aimait bien fréquenter les soldats avec le vain espoir de quitter définitivement l'île au bras d'un de ses soldats. Et la seconde, en fait, on la voit surtout dans le prologue, et après elle reviendra un peu dans le roman, elle est sur un bateau qui rapatrie d'urgence les Islandais qui étaient expatriés au Danemark, en Suède. Ces deux pays étant occupés par les nazis, ils ont quand même laissé un bateau rentrer, et donc un paquebot rapatrie tout le monde vers l'Islande. Elle a attendu en vain son fiancé avant d'embarquer. Celui-ci ne l'a pas rejoint. Vous doutez bien que les deux histoires vont peut-être avoir l'une avec l'autre. Alors les deux enquêteurs, Florent et Thorson, ils vont mener leur enquête, leurs investigations, en fait un petit peu dans tous les milieux de la capitale. Aussi bien vers les filles paumées qui se vendent pour vivre au beau et mal militaire.
Pléonasme.
Et aussi dans ces militaires qui traînent, enfin qui errent dans la ville quand ils ne sont pas occupés à faire leur boulot de militaires. Alors justement, ces militaires, en fait, ils vont rencontrer, les deux enquêteurs, quelques ennuis avec la hiérarchie militaire, justement, parce que cette hiérarchie n'aime guère que l'on insinue que ces soldats puissent mal se comporter dans le pays. J'allais dire occupé, en fait, non, c'est pas vraiment un pays occupé, c'est un pays qui leur cède un peu de place. Alors, comme souvent dans les romans de Arnaldur Indridason, c'est pas facile à dire, les collabos nazis sont en toile de fond. Surtout dans ces romans historiques, il y en a 4-5 qui sont parus depuis, qui s'appelait l'opération Napoléon, etc. Effectivement, il y a surtout cette occupation, je l'ai dit comme ça, américaine, en fait. Arnaldur Indridason considère presque ça comme une occupation. L'arrogance des Américains de l'époque passe très très mal chez lui. Il considérait, nous dit-il, l'Islande un peu comme leur base militaire. Une immense base militaire, mais une base militaire...
Ils ont fait ça dans pas mal d'endroits.
Voilà, dans laquelle les locaux, donc les Islandais, sont considérés comme des bouseux et des indigènes dont on n'a pas vraiment à tenir compte. Il aborde aussi un sujet qui me semble nouveau dans ses romans, qui est toujours très embêtant quand il y a des militaires, c'est le sujet de l'homosexualité. Et il le traite de façon assez bien, même très bien, pour montrer toutes les implications que ça peut avoir déjà à l'époque. On est en 43, c'était
oui,
pas forcément...
Oui, je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus
surtout,
difficile...
Surtout l'homosexualité masculine.
À l'armée.
Avec des militaires en plus. Il raconte aussi d'intéressantes anecdotes sur la création de ce pays, car je rappelle que l'Islande, en fait... n'est devenue vraiment indépendante qu'en 1944. Elle était administrée jusqu'à cette époque par le Danemark. Et il y a aussi une petite anecdote dont on a parlé aussi ailleurs en Europe, d'une fameuse épidémie de grippe dite espagnole qui décima une grande...
C'est quand même pas une anecdote.
Non, c'est... c'est une anecdote dans le roman, mais ça... Oui, c'est...
C'était dramatique.
C'était dramatique, mais c'est juste une petite anecdote dans le roman. Alors, si vous êtes amateur d'Indri Dasson, si vous avez déjà lu de ses romans, vous savez déjà, il a un vrai sens du récit. Alors, certes, les enquêtes de son autre héros, Erlendur, semblent parfois un peu lentes, alors que celles de Thorson et de Florent, là, c'est de nouveaux romans, sont menées plutôt à la vitesse d'un thriller, mais avec, évidemment, l'indéniable talent d'écriture que l'on connaît d'Indri Dasson. Donc, pour ma part, Arnaldur sans Erlendur, c'est au moins aussi bon que Arnaldur avec Erlendur.
Et tu t'es pas trompé.
Et je me suis pas trompé. Et si vous avez aimé celui-là, l'éditeur annonce la fin de la trilogie pour le mois de mai, enfin pour le printemps.
Mai 2018. Est-ce que le premier est sorti en poche
non,
ou pour l'instant
il va l'être, mais pas. Je pense que ça sera un petit peu plus tard. Il vient de sortir un roman qui s'appelle Betty de Indri Dasson, donc du coup en poche.
Très intéressant roman avec les codes des vieux films noirs. Ben moi je vais continuer avec un roman qui se passe aussi dans les pays scandinaves, puisque nous allons partir en Norvège, aux côtés de Gunnar Stålsen, et on va retrouver son détective fétiche qui s'appelle Varg Veum.
Détective privé,
c'est le 14e roman consacré au détective. On en parle régulièrement parce que c'est toujours très agréable. Donc il vit et il travaille, il adore la ville côtière de Bergen, comme d'ailleurs l'auteur Gunnar Stålsen. Procédé assez courant narratif dans les polars et dans certaines séries policières, le récit commence au présent. La fiancée de Gunnar est entre la vie et la mort dans un hôpital. Puis, on va remonter quelques semaines plus tôt pour comprendre comment tout cela a pu aboutir à ce drame. Le nom de sa fiancée, c'est Karine, c'est la copine de Varg Veum. Varg Veum, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a quand même un jeu de mots parce que c'est le loup dans la bergerie, en norvégien, comme je parle norvégien couramment, bien évidemment. Varg Veum.
Donc on avait des loups solitaires tout à l'heure et maintenant la bergerie.
Je suis spécialisée dans les loups ce soir. Et loup dans la bergerie étant une métaphore de celui qui fouille un peu, qui met un petit peu son nez là où il ne faut pas et qui finit par trouver ce qu'il a envie de trouver. Donc Karine lui demande d'aider une amie à retrouver son mari. Varg Veum sait souvent qu'il enquête sur le cas de disparition, qui s'appelle donc cette amie s'appelle Måns Meland. Le détective traîne les pieds, il n'aime pas s'occuper des affaires de couple. Ça lui plaît pas d'aller prendre des photos, il a peur que ce soit une affaire d'adultère, ça l'intéresse pas. Cependant, les circonstances particulières ainsi que le fait que la première femme de ce type, Måns, a mystérieusement disparu, ça lui donne envie quand même d'aller un petit peu investiguer. Donc, afin de mieux comprendre, Veum part dans un fjord battu par les vents, où la société de Meland, associée à d'autres entreprises, veut installer un immense champ d'éoliennes. Alors, un immense champ d'éoliennes, on se dit super, une avancée écologiste, enfin! Mais en fait, les villageois et les associations s'élèvent contre ce projet parce que ça va dénaturer le paysage et surtout, toute cette faune sauvage qui est installée depuis des siècles, ça va chasser tous les animaux. Et qui peut avoir intérêt donc à s'attaquer au chef d'entreprise qui veut installer ces éoliennes? Il y en a plein. D'ailleurs, le chef d'entreprise, il n'était plus du tout convaincu que cette installation soit une bonne chose. Donc, on a comme suspect les associations, les habitants du fjord, un illuminé fanatique complètement religieux, enfin, c'est aussi un pléonasme, fanatique religieux, ou tout simplement les proches du disparu. Varg Veum va aller et venir, tant physiquement, entre Bergen et le fjord, mais aussi mentalement, entre les pistes nombreuses qui s'offrent à sa réflexion. Ce roman permet de poser certains problèmes avec pas mal de subtilité. Les éoliennes, encore une fois, comme je disais, ça semble une évidence pour dépasser les énergies fossiles. Mais quid des paysages, quid des écosystèmes, quid de ces choses absolument magnifiques dans les fjords que l'on admire quand on passe avec l'express côtier.
Oui, d'ailleurs, il semble qu'on commence à en revenir de ça, des fermes d'éoliennes.
Surtout que, en fait, ce qui explique bien...
Gunnar
Stolzen, d'ailleurs sans asséner une vérité, c'est que ces fjords, ils étaient déjà bien abîmés par les supertankers qui sillonnent les baies norvégiennes. Il y a quand même le pétrole qui n'est pas trop loin. Avant tout, de toute façon, et c'est pas le premier, c'est la bêtise humaine que fustige Gunnar Stolzen, celle qui conduit aux extrémismes de tout poil. Et ça, malheureusement, on n'est pas prêt d'en être débarrassé.
Il va pouvoir en écrire quelques autres, si.
Voilà. Donc, je vais quand même vous dire tout, parce que pour l'instant, je ne vous ai toujours pas dit le titre du roman. Ça s'appelle « Le vent l'emportera ». Le romancier, donc Gunnar Stolzen, c'est traduit par Alex Fouillet, et c'est un roman qui est publié chez Gaïa Édition. On va écouter un petit morceau de musique.
Un petit morceau de musique. Donc, j'ai choisi d'écouter un morceau du groupe, du disque de Émile Parisien Quintet qui s'appelle, je ne sais plus, Sfumato. Pourquoi ce choix? Ben parce que Émile Parisien a gagné avant-hier la victoire du jazz du meilleur album. Donc, et c'est super mérité, donc on va en écouter un morceau. Et j'ai aussi choisi dans ce disque un morceau qui s'appelle Poulpe, un peu pour nous rappeler d'abord notre sujet polar avec le poulpe, et pour évoquer l'excellent poulpe qu'avait écrit Hervé Prudhon, dont on vous parlait tout à l'heure, qui s'appelle « Ouarzazat et mourir ». Donc le morceau s'appelle « Poulpe » de Émile Parisien Quintet. Voilà, donc, le pianiste, c'était Joachim Kühn. Donc, on ne parle pas souvent de polar portugais dans notre Onde Noire. Et celui dont je vais vous parler ce soir, c'est peut-être l'un des premiers, moins du moins dans notre émission. C'est aussi le premier polar édité par les éditions Chandaigne, qui sont spécialisées dans la littérature lusophone.
Lucitophone.
Ils mettent lusophone sur à l'arrière, donc je suppose, depuis plus de 20 ans. Donc c'est leur premier polar. Et ils se lancent dans ce polar, donc de fort belle façon, avec un roman de Pedro Garcia Rosado, sans prononciation garantie, qui s'appelle Mort sur le Tage. Il est traduit par Myriam Benaroc. Ce livre aurait pu s'appeler Lisbonne Noire ou Lisbonne Confidentielle, tant il décrit la ville et ses corrupteurs et ses corrompus. La ville, c'est Lisbonne. Le titre original eût été pas mal aussi. En français, ça donnerait Oulianov et le diable. Mais en fait, ça aurait pu faire penser à un polar ésotérique.
Et puis Oulianov, ça fait pas très portugais.
Ça fait pas très portugais. Et en fait, c'est pas du tout un polar ésotérique. Oulianov, c'est le personnage principal du roman. Le diable, quant à lui, il est humain, à n'en point douter, dans le roman. Mais humain, mais plus complètement. Tant la vie a été dure pour lui, vous verrez pourquoi. Le roman commence de façon assez classique. Deux types laissent une jeune fille pour morte dans une zone en friche, sur les bords du Tage. Le roman s'appelle « Mort sur le Tage ». Une jeune fille qu'ils ont salement malmenée. Mais très vite ensuite, dès l'apparition du nommé Oulianov, le roman va prendre sa vitesse de croisière. On embarque dans les rues de la capitale portugaise, parfois même au volant d'une très belle et vintage Aston Martin DB5 grise. Oulianov, j'en ai déjà parlé, c'est le frère de la jeune femme du début, celle qui est morte ou pas, celle qu'on a jetée sur les bords du Tage. Il va tout faire pour la retrouver. Son nom, Oulianov, c'est un pseudo, vous vous en doutez. Il nous indique qu'il est d'origine russe. En fait, c'est un ancien du KGB, devenu mafieux au Portugal après la chute de l'URSS. C'est désormais un repenti qui se tient bien à carreau, qui bosse sagement dans un magasin d'électronique. Mais la quête, la recherche de sa sœur disparue, va faire ressortir tous les acquis de sa formation de mercenaire. Du côté des bad guys, donc les méchants, on a deux fils de bonne famille, deux fils à papa. Le papa, lui, c'est un entrepreneur brillant, renommé, dont la réussite ne se dément pas. Il est passé de la presse aux bâtiments et travaux publics avec autant de succès. Ses fils, eux, sont plus préoccupés par l'organisation de festas sur leur yacht que par la gestion de leurs affaires. Un business que leur père leur a offert un à chacun. Ils sont aussi argentins par leur mère, ce qui permet à l'auteur, au cours du roman, de s'évader un petit peu de la capitale portugaise et d'écrire de très beaux passages sur l'Argentine, sur ses plaines, sur ses ranchs, ses immensités. Et ça donnera aussi, peut-être, aux deux salopards, puisqu'on peut les considérer comme ça, peut-être une voie d'échappement. La force de ce roman, en fait, tient en deux points. D'abord, la description des milieux huppés et politiques lisboètes, et de leur silencieuse mais très efficace corruption, des édiles décideurs aux flics de tout grade. Il semblerait même que la mafia russe, d'après Perestroïka, donc, ait atteint la péninsule ibérique et le Portugal. Mais la vraie réussite de ce livre, c'est bel et bien le personnage d'Oulianov. Je voudrais pas spoiler la fin, mais c'est quand même un personnage qu'on aimerait bien retrouver. Sans le talent de Pedro Garcia Rosado, il phagocyterait presque le roman tellement il est important. Mais il se contente pas de tout emporter avec lui. En fait, si, aussi bien physiquement que métaphoriquement. Rosado nous harponne dès la première scène où apparaît le russe et il nous maintient au bout de son fil, le fil du harpon, jusqu'à la dernière page. Même si le personnage complexe et fascinant, on n'est bien sûr pas tout le temps d'accord ni avec lui ni avec ses méthodes. Il y a, avant de finir, juste une scène de bagarre dans le noir ou presque dans un égout qui est magnifiquement écrite. On sent l'humidité, les coups, les parois rugueuses, le sang qui coule, sans ébrouf ou sans surenchère de violence. Du grand art, je vous le dis. Pedro Garcia Rosado, Mort sur le Tage, audition Chandaigne.
Il nous reste 10 secondes pour vous dire au revoir et vous dire chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Voilà, donc je suis pressée, voilà, il nous reste 20 secondes. Donc tu peux reciter le traducteur.
Myriam Benaroc.
Voilà, et c'est aux éditions Chandaigne, c'est leur premier roman noir. Donc voilà. On espère en voir d'autres de la même eau. Voilà, on arrive au bout de cette émission, donc encore une fois au revoir, à la prochaine émission.